Le ministre des Outre-mer assure qu'il poursuivra les discussions avec le FLNKS alors que l'accord de Bougival a été publié au journal officiel. En guise de réponse, l'UC publie un communiqué. Manuel Valls, prestidigitateur colonial au service de la Macronie. L'élection de Miss France, c'est dans 3 mois. Juliette Collet représentera le territoire. Après une année sans, désignée Miss Nouvelle-Calédonie hier soir, elle sera en lice dans le concours national. Un salon de nature, maison et déco qui a connu une fréquentation timide mais qui a attiré des passionnés. Près de 5000 visiteurs ont fait le déplacement ce week-end au Parc Fayard. L'actualité religieuse avec 2 canonisations ce soir au Vatican, notamment celle de l'Italien Carlo Acutis, mort en 2006 à l'âge de 16 ans, surnommé le geek de Dieu ou encore le cyberapôtre. L'actualité nationale, l'avenir s'assombrit pour François Bayrou à l'approche du vote de confiance qui devrait faire chuter le Premier ministre et son gouvernement lundi. Le sport, beau week-end pour le rugby. À suivre ce soir, un France-Afrique du Sud en Coupe du Monde féminine et demain, le choc Clermont-Toulouse pour la première journée du top 14. Et en Calédonie, clap de fin sur la No Woman No Sail, une 14e édition de la compétition de voile 100% féminine qui a tenu ses promesses au large de Nouméa. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Week-end pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé le 12 juillet à Bougival, publié au journal officiel. Et dans une déclaration, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, explique que la première conséquence de cette publication est de permettre au Sénat d'examiner la proposition de loi organique permettant le report des élections provinciales en juin 2026. Lionel Sabot.
Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie donnera lui son avis sur ce texte le 15 septembre prochain. Nous devons poursuivre sereinement les travaux institutionnels au sein du comité de rédaction et à travers des réunions bilatérales entre les différents partenaires politiques et signataires de l'accord, écrit le ministre des Outre-mer, qui indique qu'il poursuivra les discussions avec le FLNKS à l'écoute de ses propositions. Manuel Valls évoque également le calendrier. Après l'adoption de la révision constitutionnelle, les Calédoniens se prononceront sur le texte de l'accord en février 2026. La Nouvelle-Calédonie doit sortir d'une impasse qui n'a que trop duré. Elle mérite la mise en œuvre d'un accord qui lui permet d'avancer sur le plan politique et institutionnel. Cette stabilité est un facteur indispensable à la reconstruction économique et sociale, écrit pour conclure Manuel Valls.
La publication de l'accord de Bougival au journal officiel qui fait réagir l'Union calédonienne.
Dans un communiqué diffusé en fin de matinée et intitulé « Manuel Valls, prestidigitateur colonial au service de la Macronie », Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC, revient sur les différentes étapes qui ont conduit le FLNKS, depuis le conclave de Deva en mai 2025, à signer l'accord de Bougival en juillet dernier. Cette signature a immédiatement été détourné par l'État français qui prétendait que le FLNKS avait adhéré à l'accord alors que le Front l'a rejeté fermement le 13 août, écrit le secrétaire général de l'UC. Il dénonce une manœuvre qui s'inscrit dans une série de tentatives de l'État français pour imposer une solution qui fragmente et met de nouveau en danger la paix. Comme par enchantement, écrit encore Dominique Fauchy, le projet est devenu accord de Bougival et a été publié au journal officiel, donnant l'illusion d'une légitimité juridique. Mais pour le secrétaire général de l'UC, un texte dont les signataires sont inconnus et dont le contenu est flou ne peut servir de base à un report arbitraire des élections. En conclusion, il affirme toutefois que l'Union calédonienne reste ouverte à la discussion et à la recherche d'un accord.
Je vous rappelle qu'à la fin de ce journal, vous retrouverez la rediffusion du magazine Transparence. C'est Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Il a été interrogé sur les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie de la crise politique nationale et sur la suite des discussions concernant l'avenir institutionnel. Une émission que vous pouvez également retrouver sur notre site internet en podcast audio et vidéo www.rrb.nc. Voyons quelques-uns des temps forts de la semaine qui commence. Demain, c'est ce lundi que s'ouvre le sommet annuel du Forum des îles du Pacifique. Cette année, il se réunit aux îles Salomon et doit durer toute la semaine prochaine. Et dans l'actualité judiciaire également, voyons de quoi sera fait l'actualité, Lionel Sabot.
Oui, la troisième session d'assises s'ouvre demain. 6 dossiers seront jugés jusqu'au 23 septembre, dont un en appel. 2 affaires de sang, 4 affaires de mœurs. Claire Lanet, substitut du procureur.
Ces 6 dossiers, nous avons un dossier d'homicide volontaire, un meurtre. 4. Un dossier de violence volontaire en réunion ayant entraîné une infirmité permanente. Les 4 autres dossiers sont des affaires de mœurs, soit des viols et des agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans, soit des viols, ça concerne 2 dossiers, où les victimes sont majeures et il s'agit dans ce cas-là de viols collectifs.
Le premier dossier examiné mardi et mercredi sera un meurtre survenu le 22 mai 2021 à Coutiot, dans un contexte d'alcoolisation massive. Une bagarre a éclaté entre 2 individus âgés d'une 40aine d'années. L'un d'eux a asséné un coup de ciseau à sa victime qui décédera quelques heures plus tard. On retiendra encore que cette semaine sera marquée par la visite du nouveau directeur général d'Eramet, Paolo Castellari, qui doit rester plusieurs jours sur le territoire. Mercredi, les élus de la CCI se retrouveront pour une assemblée générale extraordinaire. Elle a été réclamée par les élus de la liste battue lors des dernières élections, alors que le président de la Chambre a été entendu dans le cadre d'un dossier concernant ses affaires professionnelles. Jeudi, ce sera la fin des 11 jours de l'exercice militaire franco-japonais Brunet Takamori 2025. Il avait débuté le 1er septembre et s'est déroulé au sein du Rimapensé à Plume. Et puis notez que le week-end prochain, ce sera la fête à Nouméa. C'est en effet samedi prochain qu'aura lieu le carnaval.
Vos rendez-vous d'antenne. Demain, notre invité du matin sera le membre du gouvernement Christopher Gigès. Il reviendra notamment sur la mission économique qu'il a menée cette semaine à Fidji. Et puis encore un rendez-vous d'antenne. J'ajoute que 2 jours après son sacre, Juliette Collet sera demain à 11h30 dans nos studios. Miss Nouvelle-Calédonie 2025 sera notre invité dans Infomag, l'édition de la mi-journée présentée par Jean-François Bodin.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
C'était en effet l'un des temps forts de ce week-end, le concours Miss Nouvelle-Calédonie. Hier soir, Juliette Collet, qui a donc été désignée sur la scène du Méridien de Nouméa, reine de beauté du Caillou. Il y avait 8 prétendantes au diadème tant convoité. La soirée de gala avait pour thème naturel. Pour Juliette Collet, c'était une soirée chargée d'émotions.
Beaucoup trop d'émotions. C'est une réelle fierté d'être sacrée Miss Nouvelle-Calédonie auprès de 2 jolies jeunes femmes. Et puis, je suis très heureuse d'avoir vécu cette aventure. Je suis très contente des rencontres que j'ai faites, de toutes les personnes qui ont travaillé autour de tout ce concours, des filles qui étaient avec moi sur scène. Et puis c'est une aventure que je n'aurais jamais pensé vivre et finalement je suis très heureuse de l'avoir vécue. Bah, ma maman était présente et c'était une vraie fierté parce que ma maman est de tout haut, de province nord. Et tous les membres de ma famille n'ont pas pu être présents ce soir, mais ma maman oui, et c'était vraiment très émouvant, je pense que vous avez pu le voir.
Les dauphines de Juliette Collet sont Lila Grasse-Prévot et Safia Hélène Cugno. Une élection qui s'est déroulée en présence de Miss France 2023, ancienne Miss Guadeloupe Indira Ampio.
C'est une très belle élection. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de regarder pratiquement toutes les élections régionales. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la culture soit vraiment mise en avant. On a eu des tableaux qui étaient incroyables, des candidates qui étaient à fond, qui se sont amusées. Et nous, c'est ce qu'on a envie de voir sur scène. Des filles qui s'amusent, qui sont contentes d'être ici, qui rayonnent, tout simplement. Et en tout cas, les filles ont brillé. Et voilà, je souhaite à Juliette de briller tout au long de cette année de Miss Nouvelle-Calédonie.
Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025, s'envolera début novembre et représentera donc la Calédonie à l'élection de Miss France 2026 en décembre prochain.
RRB, il est 17h53.
Dans le reste de l'actualité, un bilan positif pour la 11e édition de la fête agricole de Pointe-Bout. Le soleil et l'ambiance étaient au rendez-vous hier sur l'ancien hippodrome de la commune. Les visiteurs comme les exposants présents ont pu profiter des produits locaux et des animations proposées, notamment les jeux équestres ou le rodéo. Les précisions de Katia Moglia, la présidente du comité organisateur.
On peut faire qu'un bilan positif. On a eu à peu près entre 2500 et 3000 visiteurs. On a eu énormément d'inscriptions pour les jeux équestres et on a fini par un très beau rodéo qui a donné beaucoup de spectacles. Je pense que oui, l'objectif est atteint. On voulait avoir le maximum de visiteurs et on ne pensait pas avoir autant de cavaliers. Mais on a vraiment eu une très belle journée, sans pluie en plus. La pluie est vraiment arrivée à la fin et je pense que c'est une réussite pour nous. Et je tenais vraiment à remercier toute mon équipe parce que ça a été dur toute la journée, mais tout le monde a été là et tout le monde a été présent.
Et des propos recueillis par Kélinda Boicou. La 10e édition du Salon Nature, Maison et Déco a refermé ses portes cet après-midi au Parc Fayard à Dimbéa. Si la météo n'a pas toujours été de la partie, les amoureux des plantes n'ont toutefois pas raté cet événement. La fréquentation a été timide mais constante tout au long de ces 2 jours, avec quelques 5000 visiteurs qui ont fait le déplacement. Laura Nourtier, organisatrice.
Pas mal de monde. monde qui sont venus chercher les petites pépites, surtout au niveau des plantes, 80 exposants tout au long du week-end. 10 ans de verdure, 10 ans de passion, 10 ans de partage avec nos artistes, avec nos exposants, donc beaucoup de sens parce que c'est vraiment un événement qu'on partage avec nos exposants, avec la ville de Dumbéa aussi, et c'est un rendez-vous que nous on attend et qu'on aime partager.
Le salon Nature Maison et Déco qui s'est achevé cet après-midi, il se déroulait donc sur 2 jours au Parc Fayard. À Nouméa, un clin d'œil à la Bretagne sur l'Ansvata ce dimanche matin. Une 15aine de personnes s'est réunie pour participer à un concours national afin d'afficher la présence bretonne en Calédonie. Si le temps n'était pas au beau fixe, quelques nostalgiques de la Bretagne et du Pays Braise ont tout de même répondu présent. Les explications de Martillon, présidente de l'Association des Bretons de Nouvelle-Calédonie.
On a décidé de faire cet événement suite à une publication donc, du journal Ouest France. C'était « Avez-vous vu le Gwenadu ?» L'idée, c'était donc de faire un Gwenadu. Gwenadu, ça veut dire noir et blanc en breton, ça veut dire le drapeau breton. Et on va envoyer la photo, on va voir si on gagne ou pas, parce que c'est un concours. C'était cool, on s'est dit « Tiens, allez, faisons ça ». Ça permet de rencontrer aussi des nouveaux Bretons qui arrivent sur le territoire, d'autres qu'on ne connaît pas. On a un cercle et puis on essaye aussi de faire vivre avec les anciens un petit peu la langue, mais pas trop. Sinon, à l'occasion de fêtes, on essaye de faire vivre l'association.
À noter que l'Association des Bretons de Nouvelle-Calédonie organisera par ailleurs un fest-noz jeudi prochain au bout du monde à Nouméa.
RRB, il est 17h56.
En bref, une information pratique concernant le trafic aérien à l'international. À noter que le vol Air Calin SB 741 en provenance de Singapour, qui doit se poser cette nuit à Tontouta, aura du retard. Il n'arrivera qu'à 00h11 au lieu de 22h35, un vol opéré par iFly. Avant de marquer une première pause dans ce journal, on va prendre de la hauteur avec ce rendez-vous pour les lève-tôt ou les couche-tard, c'est en fonction. En fin de nuit et demain matin, il sera possible, depuis la Nouvelle-Calédonie, d'assister Lionel Sabot à une éclipse totale de lune.
Ah oui, il s'agira de la deuxième éclipse totale de lune de l'année après celle du mois de mars. Une éclipse de lune, au-delà du spectacle qu'elle peut produire, c'est avant tout une configuration céleste bien particulière du Soleil, de la Terre et de la Lune. Le phénomène se produit environ 2-3 fois par an quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre-là et que la Lune est pleine. Avant la pleine Lune, ça marche pas. Après la pleine Lune, ça marche pas non plus. La mécanique céleste ne supporte pas l'inexactitude et ça fait des milliards d'années que ça dure. La nuit prochaine, donc, à partir de 3h27 et 2 secondes, heure de Nouméa, notre satellite naturel va progressivement glisser dans l'ombre de la Terre, n'en déplaise aux platistes. Progressivement, Sélène va perdre sa teinte blanche pour prendre une couleur plus ou moins rougeâtre. Rien de magique ou de mystique, seulement de la physique. La lumière solaire qui atteindra la Lune à ce moment-là, sera courbée et dispersée en traversant l'atmosphère terrestre. Ce phénomène est similaire à la façon dont la lumière peut devenir rose ou rouge lors des levers ou couchers de soleil sur Terre. Et plus il y a de nuages et de poussière dans l'atmosphère, plus la Lune apparaîtra rouge. Cela dit, il ne faut pas non plus trop de nuages sur votre lieu d'observation, sinon bah, vous ne verrez rien. Pour résumer, faites sonner le réveil de bonne heure. S'il y a des nuages dans le ciel de Calédonie, allez vous recoucher ou partez au boulot. Votre patron sera content de voir que vous pouvez arriver en avance au travail. La totalité du phénomène débutera à 4h30 et 41 secondes. Elle durera 1h22 et 6 secondes, c'est précis. Vous pourrez donc profiter du spectacle céleste avant le coucher de la Lune à 6h03 demain matin. Pour observer cette éclipse de lune, pas besoin de matériel particulier, vos yeux feront parfaitement l'affaire. Vous pourrez aussi vous amuser à prendre des photos, ça fonctionne même avec votre téléphone portable. Et puis, comme je suis, c'est bien connu, un très gentil garçon, je vais vous donner déjà rendez-vous le 22 septembre au lever du soleil, toujours en Calédonie, pour cette fois-ci une éclipse partielle de soleil, ou plutôt, si vous voulez utiliser le terme scientifique exact, ça fait toujours bien à l'apéro, une occultation du soleil par la lune. Dans 15 jours pile poil, le soleil, la Lune et la Terre seront alignés dans cet ordre-là. Et notez que si un jour le Soleil venait à se glisser entre la Terre et la Lune, on appellerait vraisemblablement cette configuration l'apocalypse.
Merci beaucoup Lionel Sabot pour toutes ces explications. Il est 17h passé de 58 minutes. On va tourner une page de publicité avant d'évoquer l'actualité religieuse. Ce soir, une double canonisation qui se déroulera au Vatican. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Mickaël Juneski.
Un grand moment pour la communauté catholique qui aura ce soir les yeux tournés vers le Vatican. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour la canonisation notamment de Carlo Acutis, emporté en 2006 à l'âge de 15 ans par une leucémie foudroyante. Sa canonisation était initialement prévue fin avril, mais elle avait dû être reportée en raison de la mort du pape François. Carlo Acutis était surnommé le geek de Dieu pour ses talents en informatique. Il était devenu dès le début des années 2000 et reste aujourd'hui encore une idole chez les jeunes. Des podcasts et des messages qui lui ont valu le surnom également de cyberapôtre. Écoutez à ce propos le père Jean-Paul Pouillet, prêtre de la paroisse de la Foi.
Carlo Acutis, qui est né en 1991 et qui est décédé en 2006, c'était un adolescent bien dans ses baskets, tout à fait un adolescent de son époque, puisque au tout début de l'Internet, il était déjà aguerri à tout cela. Il avait créé un site Internet pour parler des miracles eucharistiques. Il avait un amour fou de Dieu, il allait à la messe tous les jours, il priait régulièrement le chapelet, et durant sa vie très courte, il a rayonné d'une foi exceptionnelle. Quand l'Église canonise, c'est pas pour dire que ce sont des surhommes, c'est simplement pour nous encourager, nous aussi, à continuer. Quand certains jeunes sont perdus, déboussolés, il faut nous rappeler qu'on a des jeunes aussi, partout, ici, chez nous, comme ailleurs, dans le Pacifique ou dans le monde, qui ont un cœur généreux, qui ont une solidarité avec leurs contemporains. Et cela, il faut l'encourager, il faut le voir, il faut en prendre conscience. Et donc, on peut se réjouir pour la canonisation de Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis et pour toutes les belles œuvres que des jeunes font hier, aujourd'hui et feront encore demain partout dans le monde.
Et une autre canonisation ce soir, celle de Pier Giorgio Frassati, mort en 1925, connu pour son dévouement envers les pauvres et sa passion pour l'alpinisme. Il est considéré là aussi comme une figure inspirante pour la jeunesse. On retrouve le père Pouillet.
Pier Giorgio Frassati, décédé il y a tout juste 100 ans, c'était un jeune sportif, un alpiniste aguerri, qui était étudiant dans une école d'ingénieurs, et lors de sa maladie et sa mort brutale, eh bien, ses parents ont découvert tout ce qu'il faisait de manière humble, cachée, discrète. Il allait avec des amis visiter les malades, porter des médicaments aux pauvres, secourir ceux qui en avaient besoin. Et c'est certainement lors d'une de ces visites qu'il a contracté lui-même la poliomyélite qui l'a emporté rapidement. Et lors de ses funérailles, des centaines de pauvres, de personnes en difficulté sont venus lui rendre hommage, à la plus grande surprise de sa famille.
Le père Jean-Paul Pouillet, prêtre de la paroisse de la Foi, des propos recueillis par Kélinda Boisco, une double canonisation qui se déroulera donc ce soir dès 19h pour nous au Vatican. La messe sera célébrée par le pape Léon XIV. L'actualité nationale à J-1 avant une journée à haut risque pour François Bayrou. Ce lundi, le Premier ministre sera fixé sur son sort. Le locataire de Matignon a sollicité le vote de confiance des députés sur la question du budget, mettant ainsi son poste en jeu. Il pourrait devenir le premier chef du gouvernement de la Ve République à perdre ce type de vote face à des oppositions déterminées à le faire tomber. Décryptage de Charles Bouchin d'Europe 1.
Concrètement, à 15h, François Bayrou prendra la parole à l'Assemblée nationale devant les députés et les ministre. Il fera sa déclaration de politique générale largement consacrée à la situation des finances publiques. Autrement dit, il expliquera pourquoi il demande cette confiance aux députés. Chaque chef de file des groupes parlementaires sera ensuite invité à répondre à la tribune. François Bayrou reviendra pour conclure, puis les députés se réuniront dans des salons afin de prendre leurs décisions. Pour, contre ou s'abstenir, le vote de confiance se joue à la majorité des suffrages exprimés. Les explications du constitutionnaliste Benjamin Morel.
S'il y a plus de vote contre que de vote pour, à ce moment-là, le gouvernement tombe et il tombe immédiatement. Autrement dit, François Bayrou n'a pas besoin d'aller déposer sa démission. Il sort du Parlement en n'étant plus Premier ministre, en étant malgré tout chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron nomme quelqu'un. Mais ce sera peut-être pas le jour même.
Reste à savoir combien de temps la France vivra-t-elle possiblement sous un gouvernement démissionnaire. Le record étant détenu par le gouvernement Attal qui avait géré les affaires courantes du pays pendant près de 51 jours. Trêve olympique oblige.
Charles Bouchin du service politique d'Europe 1. Ce week-end, notez que les Républicains se retrouvent en congrès dans les Yvelines. Les LR se préparent à négocier les termes de participation à un futur gouvernement. Marine Le Pen, la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale, fera elle sa rentrée dans son fief d'Hénin-Beaumont. Elle doit y prononcer ce soir un discours de rentrée du côté de l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon appelle à tout bloquer en métropole dès le 10 septembre prochain. Dans l'actualité nationale également, une polémique qui enfle et qui relance le débat sur la neutralité du service public de l'information. Au cœur de cette affaire, une vidéo enregistrée début juillet est révélée par le magazine L'Incorrect. On y voit Patrick Cohen et Thomas Legrand, deux chroniqueurs vedettes de France Inter et France Télévisions, attablés avec deux cadres du Parti Socialiste. Au menu de cette discussion, la prochaine présidentielle mais aussi les élections municipales à Paris. On fait ce qu'il faut pour Dati, explique notamment Thomas Legrand, laissant entendre qu'ils œuvreraient contre la candidate LR en s'immisçant dans les élections municipales dans la capitale pour favoriser le candidat socialiste Raphaël Glucksmann. Thomas Legrand a depuis été suspendu par France Inter, mais Mathieu Vallet, le porte-parole du Rassemblement National, a appelé à des sanctions aussi contre Patrick Cohen.
On a des militants politiques qui, sous couvert du journalisme et par l'impôt des Français, font la messe du Parti Socialiste. Voilà, c'est quelque chose qui ne convient évidemment pas parce que c'est fait avec l'argent des Français. Donc Monsieur Cohen, ce soir, il n'est pas sanctionné, il n'est pas suspendu, à l'instar de ce qui est arrivé à Thomas Legrand pour France Inter. Donc Monsieur Cohen va officier sur France TV Info, il va continuer à faire sa chronique sur France Inter et même sur la chaîne parlementaire, la chaîne de l'Assemblée nationale des députés de la nation, il est toujours encore présent. Donc Monsieur Cohen, il faut qu'il parte, s'il veut faire de la politique, il se présente devant les Français. Comme il fait des soirs à tout le monde, je pense qu'il n'aura pas de difficulté à être élu visiblement, puisque à chaque fois il a la bonne parole et la bonne messe. Donc voilà, c'est inadmissible et je vois que l'Arcom ne dit rien comme d'habitude. Voilà. Donc moi je ne veux pas payer pour une chaîne idéologisée que on est la télé, qu'on n'est pas la télé, on paye pour ça.
Mathieu Vallet, porte-parole du Rassemblement National. Les réactions qui sont nombreuses dans la classe politique. Des propos graves et contraires à la déontologie, a dénoncé Rachida Dati. Les Républicains écrivent de leur côté. Si un journaliste du service public affichait une telle proximité avec la droite, il serait cloué au pilori immédiatement. Fin de citation. Indignation encore au RN. Le service public ne peut pas être la succursale du Parti Socialiste, a réagi Marine Le Pen. Le groupe UDR, parti d'Éric Ciotti, demande la création d'une commission d'enquête sur l'audiovisuel public pour l'UDR. C'est une question de neutralité des services publics, mais aussi financière, alors que l'audiovisuel public coûte 4 milliards d'euros par an à l'État. Il se doit, selon l'UDR, de garantir une information équilibrée, plus réaliste et non partisane. L'ARCOM a annoncé avoir été saisi. Il est 18h passé de 6 minutes. On va se retrouver après une courte pause publicitaire pour évoquer toute l'actualité sportive. Fans de rugby, à vos crampons, deux beaux chocs en perspective pour finir le week-end.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS, ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ses restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Oui, le sport avec du rugby. Et la fin demain matin pour nous de la première journée du top 14, le championnat de France élite Lionel Sabot.
Avec l'entrée en lice du triple champion de France en titre, le Stade Toulousain, qui se déplacera sur la pelouse de Clermont, qui devra se refaire après une saison 2024-2025 un peu terne. Le Stade Toulousain qui sera cette saison encore le grand favori dans la course au bouclier de Brennus. Écoutez à ce sujet Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain.
Souvent quand on est amené à gagner ou souvent quand on est amené à performer, on pense qu'on a le savoir-faire suffisant pour continuer. Et c'est au moment où on pense qu'on a le savoir-faire suffisant que les débuts des emmerdes arrivent. Donc il faut juste être en éveil sur pas se prendre pour d'autres. Et, enfin, vous l'avez entendu mille fois, le niveau d'immunité du sport de haut niveau, particulièrement quand il y a 13 équipes qui qui souhaitent vous faire tomber, puis l'environnement qui est hostile, ben, il faut se préparer, être en éveil. Rester affamé, c'est un peu la condition ultime du club.
Clermont-Toulouse, match de clôture de la première journée du top 14. À suivre demain matin pour nous, coup d'envoi de la rencontre à 6h05, heure de Nouméa. Rappelons que ce matin, en ouverture de cette saison de top 14, Lyon s'est imposé 32-7 sur le Racing 92. Le Stade français a dominé le promu Montauban sur le score de 47-24. Le RC Toulon a battu Montpellier à 27-17. L'Aviron bayonnais a été l'emporté sur la pelouse de Perpignan 26-19. La section paloise a décroché un succès déjà précieux sur la pelouse de Castres 17-15. Enfin, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée 23-18 sur le Stade Rochelet.
Le rugby également dans l'hémisphère sud et au féminin.
Alors, chez les dames, l'équipe de France jouera la nuit prochaine son dernier match de poule de la Coupe du Monde. Les Françaises qui ont remporté leurs deux premiers matchs face à l'Italie et le Brésil affronteront l'Afrique du Sud. Coup d'envoi de la rencontre, 2h45, heure de Nouméa. Et puis dans l'hémisphère sud, on jouait hier la troisième journée du Rugby Championship. L'Australie s'est imposée 28-24 sur l'Argentine. La Nouvelle-Zélande l'a emporté 24-17 sur l'Afrique du Sud.
On passe au tennis. Aryna Sabalenka a conservé sa couronne à l'US Open, dernière manche du Grand Chelem.
La Bélarusse qui n'a pas tremblé face à l'Américaine Amanda Anisimova. Une victoire nette, sans bavure, la numéro 1 mondiale. Score final 6-3, 7-6. Elle s'impose donc sur les cours de Flushing Meadow et ajoute au passage un quatrième titre en Grand Chelem à son palmarès. Son premier seulement cette année, après avoir été battu en finale à Melbourne et à Roland-Garros. Ce sacre lui permet de conforter sa première place au classement WTA avec plus de 3000 points d'avance sur la Polonaise Iga Świątek. Demain matin, dans le tableau messieurs, finale de rêve entre les deux premiers du classement ATP. L'Italien Yannick Sinner rencontrera l'Espagnol Carlos Alcaraz.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les sports mécaniques, la F1 avec le Grand Prix d'Italie qui sera à suivre ce soir pour nous sur le tracé de Monza.
C'est Max Verstappen qui s'élancera à l'extinction des feux en pole position de cette 15e manche du championnat du monde. Le néerlandais qui aura à ses trousses les McLaren du britannique Lando Norris et de l'australien Oscar Piastri qui est en tête du classement du championnat du monde des pilotes. Du côté des Ferrari qui courent devant leur public, Lewis Hamilton s'élancera depuis la 3e ligne, juste derrière Charles Leclerc qui partira lui en 2e ligne. Charles Leclerc qui estime que tout pourrait bien se jouer au moment du départ.
Personnellement, aller chercher les trois voitures devant, ça va être très compliqué. Mais bon, on ne sait jamais, un bon départ. Et ensuite, j'espère qu'on pourra regarder de l'avant et essayer de remonter sur le podium.
Et côté français, c'est pas brillant. Esteban Ocon partira de la 15e position. Pierre Gasly de la 19e, juste devant Isaac Hadjar, qui a signé le 16e chrono. Mais à cause d'une pénalité pour avoir changé plusieurs éléments sur sa monoplace, s'élancera depuis la dernière place de la grille. Le Grand Prix d'Italie de Formule 1, c'est à suivre ce soir, minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours avec le Grand Prix de Catalogne de MotoGP.
Et le départ de la course principale de ce Grand Prix qui sera donné à 23h ce soir pour nous. C'est Alex Marquez qui s'élancera en pole position devant Fabio Quartararo et Marc Marquez qui ont signé les 2e et 3e temps de la séance de qualif. Juan Zarco s'élancera lui depuis la 2e ligne après avoir signé le 7e chrono. Et hier soir, c'est Marc Marquez, encore une fois, qui a remporté la course sprint juste devant le Français Fabio Quartararo.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie, on connaît les qualifiés pour les demi-finales de la Super League, le championnat élite de football. Tigasport a éliminé aujourd'hui l'AS Kounié 2-0 pour le dernier quart de finale. On rappellera hier la victoire de Yengensport sur Magenta. Magenta qui avait pourtant terminé en tête de son groupe. C'est la dure loi des play-offs dans ce championnat à nouvelle formule. Yengen l'a emporté 3-2. L'AS Gaïcha l'a emporté également 3-2 au bout du suspense contre l'AS Lossi à l'issue de la prolongation. Le CA Saint-Louis, grâce au barrage des derniers de poule, avait pu se hisser en demi-finale après sa victoire sur Horizon Patho aux tirs au but. Dans le lagon, la fin de la No Woman No Sail, l'épreuve de voile 100% féminine au large de Nouméa, des régates en catamaran EG70 sur 2 jours à la Côte Blanche. Les dernières épreuves se disputaient ce matin. C'est l'équipage des Brigantines qui a terminé en tête du classement avec Noah Ancien, Maïlys Berthollet, Clément Chausse, Camille Després et Maïlys Monin. On écoute.
Moi, c'est Noah. Et je suis barreuse du bateau. Franchement, c'est un super événement. C'est la deuxième fois que je participe. L'année dernière, c'était excellent aussi. Et là, vraiment, c'est convivial, familial, bonne ambiance. Il y a de tous les niveaux, de tous les âges. C'est vraiment Vraiment génial comme événement.
Moi, c'est Clémence et je suis GV. Je fais la grand voile, le réglage de grand voile sur le bateau. C'était hyper intéressant aussi d'avoir un côtier pour terminer et pas une banane, parce que c'est d'autres compétences. Donc là, on était vraiment sur nos réglages typiquement. Et franchement, super ambiance et le plan d'eau était incroyable, c'était magnifique. Donc franchement, c'était génial.
Moi, c'est Camille et je m'occupais de l'embrac. Bah, là, c'est une belle façon de clôturer le challenge. Et puis bah, on se fait plaisir, bonne ambiance, performance, c'est vraiment chouette.
C'est bien, je trouve, qu'il y ait des compétitions où on accepte tout le monde et tout le monde prend le départ ensemble. Et du coup, ça fait progresser tout le monde, c'est vraiment bonne ambiance. Et c'est cool que ce soit aussi que des filles parce qu'au moins, ça leur permet de venir plus naviguer que quand c'est des équipages où il y a un peu des gars et que c'est un peu macho des fois.
Et je rappelle que 80 participantes étaient en lice avec également 3 équipages venus des îles Loyauté ou encore celui de la SRC avec des navigatrice âgée d'une dizaine d'années. Vous avez pu les entendre dans nos précédentes éditions. Les organisatrices, l'association Défi des filles, sont heureuses. On écoute Sophie Barbier.
On a eu un week-end plutôt musclé avec des conditions qui ont mis les filles dans des conditions physiques. Je pense qu'elles se sont plutôt bien démarquées. Et puis à terre, une ambiance toujours aussi festive, des filles toujours survoltées, motivées. Et on sent qu'en 14 ans d'organisation de cette course, le niveau a largement augmenté avec de plus en plus de femmes qui participent et des jeunes filles, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles sur l'eau et aussi hier dans l'ambiance, etc. Donc nous, on est super contentes de promouvoir toujours la voile pour les femmes.
Il s'agissait de la 14e édition de la No Woman No Sail. 18h15, après la voile, c'est l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, cette nuit sur le sud-ouest et au Loyauté, des passages nuageux circuleront dans le flux d'Alizé et provoqueront quelques averses isolées. Ailleurs, le ciel restera bien étoilé. Sur le nord-ouest et le nord des Loyautés, le vent de sud-est soufflera entre 20 et 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds en soirée avant de faiblir en deuxième partie de nuit entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, le vent de sud-est sera compris entre 15 et 20 nœuds en soirée et faiblira ensuite autour de 15 nœuds. Les températures nocturnes baisseront sur l'ouest entre 12 et 15 degrés, ça on l'a déjà senti cette nuit, et se maintiendront au normal ailleurs entre 16 et 20 degrés. Demain matin, sur la moitié sud de la Grande Terre et au Loyauté, les amas de nuages portés par le vent déposeront encore de rares ondées par endroits. Ailleurs, la matinée s'annoncera largement ensoleillée, et ça fait plaisir. L'Alizé de sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, avec des rafales proches de 30 nœuds encore possibles à Ouvéa et sur le sud-est de la Grande Terre.
Merci beaucoup Pierre pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal.